Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 2 juillet. On est en votre compagnie jusqu'à 14h. Émission, je rappelle, avec diffusion dans la nuit. Du mercredi à jeudi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Bien entendu, on va commencer par parler de la situation actuelle en France. 5 nuits consécutives de mutins. Dans pas mal de villes, il n'y a pas que la région parisienne, un peu partout en France. Et on parlera également sur des élections sénatoriales. Le scrutin, ça va être le 24 septembre avec nous, le sénateur UDI, je parle du Val-de-Marne, entendons-nous, Laurent Lafont, mais également Marie-Christine Segui, président de la mairie de Ormesson-sur-Marne, qui est numéro 2 de la liste. Elle est Horizon. Après, on parlera de la réunion de section de Paris du Parti Social-Démocrate qui a parlé de la situation au Portugal, mais également ce qui concerne les communautés portugaises. Et un peu plus tard, le deuxième heure, on parlera des 10e édition d'une rencontre de jeunes luso-descendants qui aura lieu au nord du Portugal du 8 à 13 août. Et on va partir après à Bougival, dans le département 78. Le Centre européen de musique a lancé une campagne de financement participatif pour installer et présenter une collection de peintures et des objets mémorabilia Garcia. Qu'est-ce que c'est? Il faut attendre un peu. Et finalement, on ira d'un cœur sorte jusqu'à Avignon, la pièce de théâtre musical Soldat d'ici, là-bas, va être au off d'Avignon. Monsieur Laurent Lafont, Madame Marie-Christine Segui, bonjour et merci d'être avec nous. Là.
Bonjour.
Bonjour, Arthur Silva.
Alors, on était parti pour parler de ces élections, parce qu'il y a la moitié du Sénat qui va être renouvelée, plus exactement 171 sénateurs, mais surtout de votre liste, fière du Val-de-Marne, et le fait d'avoir deux personnes, deux partis différents, dont Horizon, qui fait partie de la majorité gouvernementale. Mais en attendant, malheureusement, l'actualité a fait qu'on va bouleverser complètement de cette interview qui était prévue, d'autant plus que cette nuit, il y a quelque chose de grave, gravissime, une tentative d'assassinat contre la famille du maire de Herlay-Roses. Alors, Mme Christine Segui, maire d'Ormesson-sur-Marne, c'est la première fois, je crois, qu'on s'attaque comme ça au maire et à une famille.
Oui, tout à fait. Alors, avant tout, moi, je voudrais m'associer à tous les messages qu'a reçus Vincent Jeanbrun, mon collègue et ami, d'ailleurs, pour lui dire combien nous sommes derrière lui et combien nous sommes choqués par ce qui s'est passé cette nuit. Effectivement, c'est la première fois qu'on s'attaque de cette manière. Alors, on s'attaque depuis quelques mois quand même largement au maire, hein. Là, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'une famille, d'une maman avec ses deux enfants. Et ça, on ne peut pas tolérer ce genre d'acte, ouais. Puisque rien ne justifie ça.
Et d'ailleurs, la maman, elle est hospitalisée, parce qu'apparemment, elle a un tibia cassé. Bon, alors, Monsieur Lafont, vous avez été maire de Vincennes, pardon, toujours dans le département 94, vous êtes sénateur. Alors, tout ce qui est en train de se passer depuis cinq nuits, depuis cinq jours, après la mort du jeune Naël, parfois, on se dit, mais on ne va pas revenir en 2005, quand il y a eu des émeutes qui ont duré trois semaines. Donc, vous connaissez bien le département, vous connaissez bien la vie politique française. Bon, comment ça se fait qu'on arrive à ces choses-là?
D'abord, si ça ressemble aux émeutes de 2005, dans les phénomènes, c'est la banlieue qui s'embrase dans un premier temps. Je pense qu'il y a quand même trois éléments majeurs qu'il faut souligner aujourd'hui. D'abord, on n'est pas sur de l'émotion par rapport aux faits d'origine, la mort du jeune Naël, mais on est sur des faits de vandalisme. C'est du pillage qui se déroule actuellement des différentes villes. Deuxième phénomène un peu différent, me semble-t-il, c'est que, autant en 2005, c'était très cantonné sur Paris et les grandes agglomérations. Or là, on voit que le phénomène, il est partout en France, quasiment, et notamment dans des villes moyennes qu'on pensait un peu protégées, à l'abri de ce type de phénomène. Et puis, troisième chose, ce qui frappe et ce qui inquiète, c'est ces phénomènes de violence. Violence avec des jeunes, de plus en plus jeunes, si on peut le dire ainsi, qui se croient un peu tout permis, et ça pose évidemment la question centrale de l'autorité. De l'autorité de l'État, de l'autorité des maires, et de l'autorité des familles.
Des parents. Alors justement, il y a le ministre de le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a dit, bon, madame, messieurs, les parents, agissez. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que les parents sont responsables civilement de ce qu'ils font les enfants. Donc, il y a, bon, vous avez parlé, M. Lafont, des problèmes d'autorité. Mais finalement, bon, avec la précarité, avec le chômage, bon, on a vécu un an et demi, deux ans de Covid, de confinement, etc. Tout un tas de choses, le monde est en train de changer. Bon, est-ce que les banlieues, c'est un genre de signal d'alerte, attention, il y a quelque chose qui, faut faire quelque chose, faut bouger cette société et mettre l'humain au centre du village, c'est le cas de le dire, Madame Segui.
Vous interrogez... Monsieur...
Non, Madame Segui, la question s'adresse à vous, justement. Est-ce qu'on doit remettre l'humain au centre de la société? C'est la société qui doit être au service des citoyens et pas le contraire.
Eh bien, la mettre au centre, je pense que, bon, ça a toujours été quand même malgré tout, puisqu'il y a eu des choses de fait. On peut pas dire que rien n'a été fait aujourd'hui. Ce que nous constatons, ce n'est pas d'il y a 15 jours, ni de quelques années. C'est bien plus loin encore. Donc, il y a eu, évidemment, des investissements, il y a eu pas mal de choses, mais moi, je reviens toujours sur cette autorité, parce qu'on ne fera rien s'il n'y a pas l'autorité. Quand on fait pousser une plante, elle pousse, il faut quelquefois lui mettre un tuteur pour qu'elle aille, je dirais, un peu droit. Et ce tuteur, aujourd'hui, c'est, bien entendu, ce sont les parents. Les parents que l'on voit quelquefois un peu perdus aussi dans l'éducation des enfants, parce que on a des enfants que l'on a habitués à ne pas entendre de réponses négatives quand ils souhaitent quelque chose. Donc je pense qu'il faut aller regarder un petit peu plus au-delà que la société, que tout un tas de choses. Nécessairement, ça passe par l'autorité parentale. Quand on est parent, quand on a été parent, nous en parlions effectivement avec le sénateur Lafont, on doit dire non à certains moments. On doit dire ça n'est pas possible. Et les enfants aujourd'hui ne sont plus habitués à ça.
Alors, Madame Segui, donc vous êtes mère, donc depuis 5 nuits, je crois que vous avez, disais-moi, qu'est-ce qui va se passer chez moi, sans dévoiler quel secret que ce soit. Donc, vous avez été obligé d'apprendre des mesures. Donc, mobiliser toutes les forces vives, c'est le cas de le dire, d'associations, etc., etc., pour...
Alors, je dirais dans un premier temps qu'Ormesson a été très épargné. Je ne sais pas jusqu'à quand, puisqu'effectivement, on ne peut pas savoir.
Oui, il y a eu des problèmes à Champigny-sur-Marne.
Voilà, nous sommes à 5 nuits d'émeute. Bien évidemment, en tant que maire, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour être en prévention et en protection. C'est-à-dire que notre police municipale est totalement mobilisée jusqu'au petit matin. D'ailleurs, je suis toujours à leur côté jusqu'à des heures pas possibles. Et il y a des patrouilles, il y a vraiment une observation de ce qui se passe sur la commune. Tout cela en lien aussi avec les polices municipales alentour. Polices municipales qui, je le rappelle, ont une importance capitale à ce moment. Même si ce ne sont pas des officiers d'état civil, ils sont là, ils accompagnent, ils aident. Et leur présence est extrêmement précieuse. Voilà, donc... Tout le monde est mobilisé. Les associations, pour l'instant, à Ormesson, ne sont pas mobilisées parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas eu de fait particulier. Et je m'en réjouis véritablement. Mais on est prêt et les élus sont prêts pour faire face si nous devions faire face. Voilà. Mais je dis aussi qu'il y a une vraie fatigue. Parce que on est tout le temps sollicité, tout le temps, et nos policiers municipaux aussi sont fatigués, tout comme la police nationale, à qui je rends un hommage particulier. Vraiment, ces forces de l'ordre font un travail remarquable, et je crois qu'il faut que tous les citoyens l'entendent et soient derrière eux.
Moi, je voudrais évidemment dire que nos élus et nos services municipaux font un boulot extraordinaire. Ça se voit actuellement où, vous voyez, Vincent Jeanbrun était, comme pratiquement tous les maires, a veillé cette nuit, était avec ses équipes prêt à intervenir, mais c'est le cas dans toutes les villes. Ce boulot, il date pas d'il y a 5 jours. C'est un boulot au quotidien qui est fait dans nos villes, dans nos quartiers, par les services municipaux, avec les élus. Vous voyez, j'étais il y a 3 semaines à L'Île-et-Rose avec Vincent Jeanbrun, justement, puisqu'il rénovait une maison de quartier dans un quartier un peu compliqué qui va être entièrement rénové dans le cadre d'un financement en rue. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien dans nos quartiers. Il se passe beaucoup de choses et grâce notamment à l'action des maires et grâce aussi parce que on ne s'en sortira pas seul à un travail conjoint entre collectivités, communes et État en particulier. C'est ensemble qu'on peut y arriver parce que sinon la tâche est extrêmement importante. Il faut le faire à plusieurs.
Faut-il encore avoir les moyens? Alors, au niveau des départements, au niveau même des collectivités territoriales, bon, davantage de responsabilités, moins d'argent. À savoir, les collectivités territoriales ont dû assumer un certain nombre de dépenses et l'État ne suit pas. Alors justement, là, on rentre dedans parce que je ne sais pas, on ne sait pas, personne ne le sait, qu'est-ce qui va se passer. Parce que dans ce contexte, faire une campagne pour être élu au Sénat, c'est complètement différent des autres campagnes puisque les électeurs, il y a un collège électoral bien spécifique. Alors en résumé, pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu, Monsieur Lavaux, vous êtes sénateur.
Alors en résumé, c'est vrai que le schéma est un peu compliqué. Ce sont les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs qui vont être appelés à voter le 24 septembre, sont les grands électeurs de droit, les conseillers municipaux. Donc tous conseillers municipaux dans chacune des 47 villes du Val-de-Marne, ainsi que les maires adjoints et les maires, bien entendu, de même que les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et les parlementaires, vont être appelés à voter. L'élection se passe le 24 septembre, il n'y a qu'un tour et c'est un scrutin à la proportionnelle, donc en fonction du nombre de voix recueillies par chacune des listes, nous aurons à désigner les 6 sénateurs du Val-de-Marne qui vont siéger pendant 6 ans.
Alors votre liste fière du Val-de-Marne, justement, Monsieur Lafont, UDI, Madame Segui, Horizon. Horizon, c'est le parti créé par Monsieur Édouard Philippe. Mais je pense, qu'est-ce que vous a finalement lié? Est-ce que Monsieur Lafont vous a fait appel à Madame Segui pour être numéro 2 de la liste? C'est 6 sénateurs qui vont être élus ou réélus le 24 septembre. Donc, c'est quoi? C'est le terrain? Finalement, c'est la base de la politique, c'est celle-là, non?
Bien sûr, c'est plusieurs choses. Alors, vous avez raison, c'est le terrain. Nous sommes des acteurs de terrain. Alors, moi, je suis sénateur depuis 6 ans, mais j'ai été maire pendant 15 ans et je suis resté, en tout cas je l'espère, proche du terrain pendant les 6 années au Sénat. Je n'ai jamais oublié un seul instant que j'étais sénateur du Val-de-Marne pour représenter nos communes, nos élus et notre département au sein de la Haute Assemblée. Et puis c'est aussi une liste, alors Marie-Christine est évidemment une femme de terrain très impliquée dans sa ville et dans son canton. C'est le cas aussi de Jean-Pierre Barneau qui est maire de Chennevières, qui est numéro 3 de la liste, et de Sophie Aymar qui est 3e maire adjoint à Champigny, qui sera numéro 4 de la liste. C'est aussi une liste de rassemblement, et on y tient. Dans cette période un peu compliquée, comme vous le dites, je crois qu'il est extrêmement important que nous nous réunissions, que nous disions ce qui, pour nous, est important, ce que nous voulons faire de ce département, et c'est vrai qu'on vient de 2 formations politiques différentes, il y aura sans doute d'autres formations politiques qui nous rejoindront, mais les sénatoriales, c'est pas tant une affaire de parti. C'est une affaire de personnalité, c'est une affaire d'élus, d'hommes et de femmes qui sont reconnus par leurs pairs, par les grands électeurs, de par leur action, de par leur engagement, de par aussi leurs convictions et de par leur proximité avec les élus.
On dit qu'au Sénat, on réfléchit et on décide après. Contrairement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est bon, les sages, bon, c'est autre chose, c'est le Conseil constitutionnel, bon, enfin, ça n'empêche qu'on dit au Sénat, bon, il y a même une expression, 35 sénateurs. Ça va dire, Madame Segui, ça va changer complètement si vous êtes élue sénateur, bon, ça va tout changer, hein. Donc, là, on a le temps d'étudier les dossiers, de préparer les choses ou pas?
Alors, je répondrai en disant qu'un train de sénateur peut être un TGV quand même. On n'est pas obligé de prendre un train de banlieue qui va mettre des années à arriver quelque part. Non. Évidemment, au Sénat, c'est un peu différent, mais je dirais que c'est une instance où pour moi, ce sont des sages qui travaillent sur des dossiers de manière bien précise, justement, parce que la plupart sont élus de terrain, et moi je crois que Laurent a totalement raison. au-delà de nos différences, qui fait notre richesse, je le rappelle, parce que si on reste chacun dans nos groupes, on se complète. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré, je dirais, dans la démarche de Laurent Lafon, qui est d'abord un excellent, je le dis pas parce qu'il était à côté de moi, mais je le pense réellement, un excellent sénateur qui a vraiment fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire accompagner les collectivités. Je ne crois pas qu'il ait laisser une ville, quelle qu'elle soit, droite, gauche, centre, et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'un élu n'est pas l'élu que de la ville, forcément, quelquefois, où il a été. Moi, je suis conseillère départementale, je suis première vice-présidente au territoire, je suis vice-présidente au département et conseillère déléguée à la métropole, et je travaille dans cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de respect de chacun, quel que soit nos différences politiques. Il y a un moment où effectivement il faut faire de la politique, mais notre rôle c'est aussi, il faut faire des choix, mais il faut aussi rassembler et accompagner les gens. Et moi ça a toujours été mon engagement, et c'est ça qui me porte justement par rapport au sénatorial, parce que nous devons accompagner les élus.
Alors peut-être deux idées clés, ou deux axes justement de votre candidature, parce que quand on est candidat, on présente un programme. Bon, Monsieur Lafon, quelles sont les idées
Comme vous l'avez rappelé, notre liste s'appelle « Fier d'être du Val-de-Marne ». En soi, c'est tout un programme. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de revendiquer dans ce département, d'être fier de notre territoire, de fier de ce que nous sommes, des atouts.
On est le 9-4, en quoi.
Ben justement, nous, on dit pas 9-4, on dit Val-de-Marne, on déjà. Parce que, et on est fiers. Je pense que nous allons porter durant cette campagne qui va commencer de manière un peu plus intensive début septembre un certain nombre de projets. Alors en termes de logement, mais je laisserai peut-être Marie-Christine en parler parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. En termes de développement économique, nous sommes à l'est de Paris avec on sait que cette région parisienne, elle est marquée par des équilibres entre l'ouest, qui a de gros atouts, de grands atouts d'un point de vue économique, et puis l'Est, qui est un peu le parent pauvre. Nous prônons, avec de nombreux élus du Val-de-Marne, un rééquilibrage, faire en sorte que nos habitants n'aient pas l'obligation chaque jour de prendre leur voiture et de traverser l'Île-de-France, mais qu'ils puissent aller travailler à côté de chez eux. On demande aussi à ce que notre environnement, qui est un environnement de qualité, on le précise pas assez peut-être, mais on a des vrais atouts, des espaces verts un peu partout, on a la Marne, on a la Seine, soit davantage mis en avant, protégé. Il y a un grand objectif dans un an, c'est les Jeux Olympiques. Alors malheureusement, le Val-de-Marne n'est pas site olympique, la précédente majorité au département ne l'a pas voulu, et bien sûr nous le regrettons, mais néanmoins il y a un grand enjeu qui est la baignade dans la Marne et dans la Seine. Ça sera un vrai plus en termes d'environnement. Moi, je suis intervenu de nombreuses reprises sur ce sujet avec les élus locaux, avec le président du conseil départemental notamment, et un certain nombre de maires. Il y a tout un tas de sujets comme ça qu'on peut mettre en avant. C'est des choses concrètes, c'est des choses qui font avancer la vie de nos concitoyens. Et tout en étant législateur, en travaillant sur la loi, qui est quelque chose parfois qui paraît un peu lointain, eh ben, c'est aussi une façon de faire avancer des sujets concrets.
Alors, au sujet du logement, justement, bon, c'est un grand problème. Et à ce propos, je vais lire des petits extraits du préfet de la région Île-de-France, dirigé à Mme Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France, à propos, sur l'avant-projet du SDRIF. Voilà, c'est ce sujet concerne le logement. Et, je cite, est sans conteste un document de qualité, il ne garantit pas suffisamment la réalisation de certaines politiques et projets d'État particuliers pour ce qui concerne la politique du logement. L'avant-projet, je continue encore citation, sont de nature à restreindre significativement la capacité des différents territoires. Donc, on parle du logement. Donc, votre liste de logements, et on sait très bien que le logement, c'est un problème. Si on voit déjà au niveau du Val-de-Marne, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont en attente d'avoir un logement. La politique, notamment, du président du conseil départemental dit « ça suffit ». On construit plus, on n'aide plus les villes qui continuent à construire de logements. Donc là, vous avez un défi énorme, Madame Segui.
Alors effectivement, c'est un vrai sujet, mais je peux pas vous laisser dire que le département du Val-de-Marne ne veut plus construire. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut prendre les choses. Oui. C'est un rééquilibrage qu'il faut faire sur le Val-de-Marne, puisqu'il y a des communes où effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, parce que c'était des choix de logements sociaux, et d'autres communes, comme la mienne par exemple, où il n'y en a pas.
Il y a des communes, par exemple, qui ont dépassé les 40%.
Alors, même plus que ça. Même plus que ça. Donc l'idée de la région et du Val-de-Marne, c'est de faire en sorte que non, on n'arrête pas de construire, mais que ce rééquilibrage se fasse de manière assez logique. Parce qu'on ne peut pas mettre les gens qui ont des faibles ressources au même endroit. Ça crée des tensions qu'on ne peut plus après maîtriser. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Donc, l'actualité va dans ce sens. Et quand la présidente de la région, je suis pas là pour être son porte-parole, mais dit effectivement 40, comme le président du conseil départemental, et nous sommes d'accord là-dessus, il faut diminuer pour rééquilibrer, de faire en sorte que la vie puisse se faire de manière, je dirais, sympathique dans chaque ville, éviter des troubles comme on les voit. Mais c'est pas que nous ne voulons pas construire. Il faut aussi construire dans les autres communes, comme la mienne. La mienne, je le rappelle, est une commune carencée +++. Donc je m'y emploie depuis que je suis arrivée, parce que oui, il nous faut du logement social. Mais là aussi, où il faut se battre, il faut faire attention où on le construit. Parce qu'il faut quand même donner aux gens, et c'est ça l'esprit de tous ces changements que nous souhaitons, c'est de leur apporter des transports, leur apporter les moyens de pouvoir circuler,
des places en crèche,
des écoles. Et ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Donc évidemment, il y a des... La loi est une chose, la loi SRU c'est une chose, elle est là, il ne s'agit pas du tout de dire on ne veut pas de cette loi, c'est de dire il faut l'adapter en fonction de certaines situations. C'est là tout l'enjeu du sujet. Ouais. Et donc le département a dit oui, au-delà de 40, on ne financera plus de nouveau, mais le département intervient comme nous le souhaitons dans la réhabilitation de certains logements qui sont vraiment très vétustes, et là il y a des financements pour éviter de faire encore des constructions qui aujourd'hui vont complètement à l'inverse de ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaite à des territoires verts, on nous parle du ZAN, on nous parle de tout ça, il faut réfléchir autrement, et c'est une réflexion autrement. Donc il y a de grosses aides pour la réhabilitation, il y a aussi une réflexion sur les logements vacants, au lieu de dire il faut construire. Donc voilà, cette politique, elle est là. Alors cibler, oui, les 40%, ça fait plaisir aux opposants, mais c'est pas tout à fait ça. Alors il faudrait, Arthur Silva, vraiment beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Mais je pense que les fondamentaux, je viens de les poser.
On pourrait y revenir après, il y a pas un de ces jours, on pourra faire une émission uniquement là-dessus.
Avec plaisir.
Parce que là, il y a question de financement, de coûts. Et là, bon, je ne vais pas revenir il y a quelques années en arrière avec le plan Borloo, et on revient justement aux banlieues et pas seulement au logement. Et bon, la Fondation Abbé Pierre a demandé justement le logement social devait être une priorité. Bon, alors, bien entendu, on est sénateur, on propose, mais le gouvernement dispose. Monsieur Lafont.
Si. Actuellement, c'est un peu plus équilibré puisque, comme il n'y a pas...
Le gouvernement a besoin de la droite au Sénat.
Et du centre. Vous le savez, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, on le voit bien, depuis un an, le Sénat a plus d'importance dans le fonctionnement des institutions. C'est pas un hasard si le gouvernement a présenté en première lecture plus de textes au Sénat qu'il n'en a présenté à l'Assemblée nationale, enfin en tout cas plus que dans les années précédentes. On a un rôle de stabilité. On a besoin, dans ce paysage français très éclaté, dans lequel les extrêmes ont pris un poids que je juge, moi, excessif, on a besoin de lieux où le débat se fait, mais se fait dans la sérénité, et surtout avec un objectif, c'est d'aboutir à quelque chose. Parce que je vois bien les discussions à l'Assemblée nationale, c'est parfois très violent, mais on ne voit pas à quoi ça aboutit. Quel est l'objet du consensus? Est-ce qu'il y a un consensus? Est-ce qu'on se met d'accord? Et est-ce que ça a une efficacité sur nos politiques publiques? Au Sénat, nous sommes dans cet état d'esprit. On dialogue, on discute, on expose nos différences et nos convergences, et on avance.
Et d'ailleurs, vous avancez sur pas mal de sujets que ça plaît pas au gouvernement. Ce que vous avez créé au Sénat, c'est un nombre de commissions d'enquête qui ont soulevé des problèmes énormes qui concernent la démocratie, notre vie quotidienne.
Oui, absolument.
C'est très important tout ça.
Moi, par exemple, je vais commencer dans quelques jours, mardi, pour tout vous dire, un travail avec la commission des lois et la commission de la culture, de l'éducation et de la communication que je préside. Nous allons commencer un travail sur l'assassinat de Samuel Paty et de voir actuellement, à la fin de l'année scolaire 2023, comment ça se présente dans les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a une pression forte? Est-ce que les procédures mises en place sont suffisantes pour que les enseignants, les proviseurs, les principaux se sentent protégés? Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes d'autocensure, c'est-à-dire des enseignants qui préfèrent ne pas parler à un certain nombre de sujets. Mmh. Bref, c'est tout ça qu'on va mettre à plat, et c'est le travail des parlementaires, c'est le travail du Sénat d'aborder sereinement, calmement, mais sans se masquer les yeux, ce type de sujet.
Alors, il y a un sujet qui a été abordé, d'ailleurs une proposition de loi qui a été avancée par les sénateurs, reconnaissance biométrique dans l'espace public. Alors, il y a un certain nombre de choses qui vont être déjà plus ou moins expérimentées au mois de septembre, avec le Mondial d'Oré, oui. Après, 2024, bon, on a les JO, ça soulève des problèmes énormes. Et le Sénat, justement, a l'avantage de pouvoir avoir un recul. Est-ce que finalement, cette reconnaissance biométrique dans l'espace public, dans le texte et dans les attendus, les sénateurs, ils en disent, bon, on y va, mais tout doucement, parce qu'il y a les libertés individuelles qui peuvent être en jeu.
Oui, on aborde, le Sénat c'est une institution où les libertés individuelles et collectives sont toujours centrales dans toutes nos réflexions. Sur cette question de la reconnaissance faciale, en fait, nous l'appréhendons avec une grande vigilance et une grande prudence. Nous avons eu des discussions avec l'État, notamment avec les Jeux Olympiques, qui dans un an, on sera dans cette phase des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y avait besoin ou pas d'autoriser en place des systèmes de reconnaissance faciale? L'État nous a dit que, de leur point de vue, ce n'était pas nécessaire pour les Jeux Olympiques. Donc, nous avons acté le fait que ça n'était pas nécessaire pour les Jeux Olympiques. Néanmoins, on sent bien qu'il y a une pression au-delà des Jeux Olympiques et des questions qui vont se faire jour sur ces nouvelles technologies. Et donc, nous avons voulu d'ores et déjà essayer de poser des jalons, un cadre législatif, quand est-ce qu'on peut l'appliquer, quand est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer, et interroger toutes les questions qui sont relatives aux libertés individuelles et collectives avec le développement de ce type d'outils. Nous sommes très prudents.
Madame Segui, vous êtes candidate, sénatrice, bien entendu, mais d'ici là, vous continuez à faire votre travail de maire, justement, et ça sera ma dernière question, on a encore environ 5 minutes. Et quel apport, justement, va être le vôtre pour cette liste? Fier du Val-de-Marne, parce que, justement, votre travail sur le terrain depuis des années et des années, peut-être va rafraîchir un certain nombre d'idées, va apporter. Et mes amis les sénateurs, ça fait longtemps que vous êtes là, vous êtes un petit peu coupés de la réalité. Bon, voilà des choses, Madame Segui.
Alors oui, évidemment, je vais poursuivre d'abord mon mandat de maire jusqu'au bout, et je pense apporter un plus de par mon expérience, justement, puisque quand on a besoin de travailler sur un texte ou autre, je crois que les élus de terrain sont des élus qui peuvent apporter beaucoup, parce que je ne crois pas que je n'ai pas utilisé ou travaillé sur un sujet comme tous les maires d'ailleurs, pas que Marie-Christine Segui, mais en particulier, nous travaillons sur tous les sujets. Nous connaissons les écueils, nous connaissons les problématiques, nous connaissons les difficultés que nous rencontrons. Et je pense que mon expérience, en tout cas, pourra aider largement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quelquefois, alors ça n'est pas, et notre sénateur Lafont est vraiment un exemple en la matière de s'être préoccupé de tout et connaît, puisqu'il a été maire, tout ce qui peut être problématique. Certains ne le sont pas, parce que le fait de ne plus être, d'être parlementaire et de ne plus être maire fait quelquefois qu'il y a ce fossé qui se crée. Et un élu maire, un élu de terrain, peut apporter beaucoup, et ça j'en suis totalement convaincue.
Parce que je pense que si vous êtes élu, bon, vous allez, poser une question au gouvernement, comment est-ce qu'on est avec le financement des collectivités locales? Parce que, bon, comment on fait? Comment on fait? Parce qu'il y a tout un tas de projets, on veut se développer, et surtout, qui c'est qui fait qui investit le plus?
Alors,
c'est des questions, bon là, c'est interpeller le gouvernement là-dessus.
Vous savez, cher Arthur Silva, on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours été une combattante pas quelqu'un qui est dans l'attentisme, dans la, on reste un peu dans la modération. Quelquefois, je suis même un peu vive parce que oui, il y a une urgence. Il y a une urgence de travailler sur certains points. Et ce n'est pas parce que je serai dans un groupe qui est celui que nous allons représenter, Centre Droit. C'est vraiment d'apporter mon énergie, toute celle que j'ai mise depuis le début que j'ai été élue, pour justement porter des témoignages. Et quelles que soient, je dirais, les personnes qui sont en face, et quel que soit l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire, je mettrais la politique un peu de côté par rapport à tout ça, mais avec une vraie expérience et une vraie volonté. Et je crois que là, personne ne pourra jamais me dire que je n'ai pas évoqué des sujets qui fâchent, avec qui que ce soit d'ailleurs.
L'avertissement est là. Justement, Monsieur Lafont, pour terminer.
Oui, juste pour dire que moi, je suis très content de faire équipe avec Marie-Christine. On connaît tous, dans le Val-de-Marne, ses qualités personnelle et humaine, son volontarisme, son enthousiasme, sa détermination. C'est pas un hasard si plus de 90% des habitants d'Ormesson l'ont élue comme maire en 2020. Ça prouve qu'elle rassemble bien au-delà de sa sensibilité politique. Mais il y a une autre qualité sur laquelle je veux insister, parce que quand on est sénateur, on n'est pas sénateur que de sa ville, on est sénateur du Val-de-Marne et du département, avec sa diversité de situations. Et Marie-Christine est également vice-présidente du conseil départemental. Donc elle a aussi cette vision sur l'ensemble du département et bien à même de comprendre que les réalités au sud du département ne sont pas les mêmes qu'au nord ou qu'à l'est. Et je crois que cet engagement départemental depuis de nombreuses années, c'est aussi un vrai atout pour le Sénat.
Espérons après que ça va se traduire dans des décisions qui obligent le gouvernement à tenir compte des citoyens val-de-marnais, pas seulement, n'est-ce pas? Madame Segui, merci d'être venue, merci également Monsieur Lafont, mais on reviendra au mois de septembre là-dessus, parce qu'avec des choses davantage concrètes. En attendant, espérons les vacances, mais je pense à tous ceux qui sont en train de souffrir avec toutes les destructions, les commerçants, et pas seulement, avec tout le désastre qu'on vit depuis 5 jours. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci Arthur Silva pour votre invitation.
Merci beaucoup.
Voltamos aqui ao Direto Passagem Nível neste domingo, dia 2 de julho. E agora vamos falar das comunidades portuguesas e não só, na medida em que a secção do PSD de Paris esteve reunida para analisar a situação política nacional, mas igualmente questões nas áreas das comunidades portuguesas. Carlos Gonçalves, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Carlos Gonçalves, antigo secretário de Estado das Comunidades, várias vezes eleito deputado do PSD pelo Círculo da Europa. Ora, os temas foram variados, mas vou por duas questões que eu penso que são importantes. Para já, a questão da alteração às leis eleitorais, na medida em que o PSD de Paris, mas não só, defende a uniformização das metodologias de voto, é como quem diz, que seja para as presidenciais, legislativas, etc., etc. Haja exatamente o mesmo método de voto. Onde é que estamos relativamente à alteração a essas leis?
Essa é uma pergunta muito interessante, que é uma matéria fundamental, tem a ver com a participação dos portugueses que residem no estrangeiro nas eleições em Portugal, ou seja, nas decisões em Portugal. E hoje há estudos nesse sentido, muito particularmente em França, que provam que os expatriados, como se diz aqui em França, os imigrantes, como se diz em Portugal, a sua ligação ao país é sempre maior quando essa participação lhes é facultada e que eles possam, como é evidente, intervir nas decisões políticas do seu país. Esta questão da uniformização da metodologia de voto, ou seja, para os ouvintes perceberem, votarmos da mesma forma nas três eleições, é uma reivindicação antiga da secção de Paris, foi levada ao Congresso há mais de uma dezena de anos. Entretanto, o PSD, no seu grupo parlamentar, eu ainda era deputado, fizemos uma proposta nesse sentido na Assembleia da República, tentando associar o voto por correspondência ao voto presencial nas três eleições, porque, como sabe, para as legislativas vota-se por correspondência, para as presidenciais europeias.
É presencial, pois é o voto presencial.
O que limita, como é evidente, a participação. Esta proposta foi chumbada. Nas duas últimas eleições que decorreram em Portugal, houve muita polémica em torno das eleições e, portanto, esta questão voltou a vir à discussão pública. E houve uma certa abertura, pelo menos no discurso de algumas forças políticas, mas, entretanto, o PSC apresentou novamente uma proposta de uniformização que até agora não teve consequências na Assembleia da República, sabendo-se apenas, porque só se sabe de umas declarações que foram feitas pelo Ministro da Administração Interna, que o Partido Socialista poderia estar aberto a uma solução de uniformização, mas privilegiando apenas o voto presencial, ou seja, obrigando todos os portugueses a ir ao Consulado de Portugal, o que é difícil de aceitar para quem vive em França e é praticamente, em minha opinião, impossível de aceitar para quem vive em países como os Estados Unidos, como a Austrália, como o Canadá ou como o Brasil. Mas para além da questão da uniformização, é também a questão das metodologias de voto. Nós vamos ter que associar várias metodologias, mas a introdução do voto online, portanto, o voto internet, portanto, o voto à distância, o voto eletrónico, como se diz, remoto, é uma proposta antiga. Eu próprio, quando fui Secretário de Estado, foi quando ocorreu o único teste de voto eletrónico. Nós temos tido o PSD Paris, mas nomeadamente o Partido Social Democrata, através do seu grupo parlamentar, já apresentou propostas nesse sentido que foram chumbadas. Aqueles que acompanham melhor a política das comunidades, através dos órgãos de comunicação social, sabem que as próprias eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas foram adiadas há 2 anos porque havia uma expectativa de realização de um teste de voto eletrónico e, independentemente de muitos discursos, de muitas palavras, esta semana ocorreu na Assembleia da República a votação na especialidade das propostas de alteração à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, em que o meu partido propunha novamente um teste de voto eletrónico nestas eleições e que foi mais uma vez chumbado, em particular pela bancada do Partido Socialista, o que demonstra que estamos a um ano dos 50 anos do 25 de Abril e andamos aqui todos, e os anos foram passando por mim e por si e pelos ouvintes da Rádio Alfa, e continuamos a lutar para que se encontre de uma vez por todas uma solução que permita àqueles que residam no estrangeiro exercer o seu direito de voto
e para que... E poder fazer de uma forma digna. Carlos Gonçalves, podemos avançar um bocadinho. O consulado virtual já começou a funcionar no dia 10 de junho. Finalmente, será que... Bom, já depois falaremos do ensino também. Porque agora com as chamadas tablets e o ensino online, bom, ainda é outra história. O consulado virtual está a funcionar? Como é que vê isso? Ou será que isto vai... Não digo que vai impedir, mas vai fazer com que a criação de novos postos de trabalho a nível dos consulados não vá para a frente, porque o presencial, voltamos a ele, é bastante importante a nível do atendimento consular.
Olha, em primeiro lugar, o consulado virtual não é uma coisa nova. Nós discutimos já no governo do Partido Socialista do engenheiro José Sócrates, tivemos um primeiro consulado virtual, como sabemos, foi um fracasso. O atual tem a ver com a digitalização, desmaterialização de dados consulares, ou uma evolução técnica muito grande e, como é evidente, tudo aquilo que permita melhorar o atendimento, facilitar o atendimento dos portugueses, sejam eles residentes em Portugal ou fora de Portugal, para nós parece-nos muito importante. Agora, o que nós não entendemos é o seguinte. Há cerca de 3 anos e meio, portanto, o Primeiro-Ministro de Andorra tinha dito que o consulado estava à distância de um telemóvel. Referiu novamente isto há cerca de 1 ano e meio, na semana passada, ou há 15 dias, perto dos dias da inauguração do novo consulado virtual, referiu-se praticamente com o mesmo tipo de palavras. O problema é que, eventualmente, o consulado virtual deveria estar concluído em 2026. Houve uma antecipação para 2023. E aquilo que nós sabemos é que os atos consulares que foram anunciados pelo governo não são nada daquilo que poderá, de um dia para o outro, alterar a relação dos portugueses que residem no estrangeiro com a administração pública portuguesa, que na maioria dos atos mais importantes, aqueles que nós no dia-a-dia temos que fazer, a larga maioria dos portugueses vão ter que continuar a deslocar-se ao consulado de Portugal. E aqui nós sabemos que se por acaso este consulado virtual, apesar dos poucos atos que poderá eventualmente conquistar, poderá ter atingido níveis que poderão retirar pessoas dos consulados, o que realmente é sempre positivo. Agora, o Artur Silva fez aí, na sua pergunta que me fez, alusão a algo que é, será que haverá condições para recrutar trabalhadores? O problema é que já se começa a justificar, por exemplo, agora no debate na especialidade do Conselho das Comunidades Portuguesas, quando o PSD propunha uma parte do Fundo de Relações Internacionais para poder financiar o funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Fundo de Relações Internacionais, o que é alimentado com as receitas dos nossos passaportes.
Os chamados emolumentos, os emolumentos consulares.
Por exemplo, nos consulados, e o Partido Socialista vem dizer que não se justifica essa percentagem do Fundo de Relações Internacionais, porque agora com o consulado virtual, o número de dados consulares nos consulados vão diminuir muito e, portanto, a receita será muito inferior. E, portanto, eu tenho algum receio que esta seja a justificação. E o problema é que aqueles que nos ouvem entendem, dado que o consulado virtual está à distância de um telemóvel, já se pode fazer praticamente tudo, que todos nós sabemos que não é verdade, sobretudo aqueles que estão confrontados, que a realidade é aqueles que me ouvem, e estamos a falar da França e Paris, que é talvez o melhor consulado do mundo, e aí, vejam bem, eu imagino aqueles que em Buenos Aires, 3 anos de espera, nem vale a pena estar a falar. E a questão do fundo é que aquilo que nós pensamos é que realmente isto começa a justificar e eventualmente não serão necessários mais funcionários e os utentes pensam que está tudo a funcionar e que a culpa se calhar são daqueles que estão no consulado a atender, porque se o consulado está à distância de um telemóvel, se as coisas não acontecem, é porque alguém eventualmente não estará a fazer o seu trabalho, o que não é verdade. O que é grave nisto é o quê? É as expectativas que são criadas. Aqueles que ouvem a Rádio Alfa ou a Comunicação Social Portuguesa têm vindo a ouvir há 7, 8, 9 anos regularmente promessas sobre a desmaterialização dos serviços, agora é que vai ser tudo à distância e depois confrontam-se com uma realidade complicada. E se na Europa uma grande parte, se não a maioria dos portugueses acabam por fazer os seus documentos em Portugal quando vão passar férias, imagine os ouvintes da Rádio Alfa, aqueles que, por exemplo, vivem nos Estados Unidos, que estão a milhares de quilómetros do consulado, que estão a milhares e milhares de quilómetros do país de origem, como é que eles conseguem fazer a sua documentação?
Não conseguem.
Nós não podemos deixar os portugueses nesta situação, mas também não podemos criar expectativas para as quais não temos hoje capacidade de dar resposta.
Sim, a Carlos Gonçalves, aliás, vimos o caso na Argentina, havia portugueses que não podiam sequer vir ter com a família assistir a um funeral em Portugal, porque há 3 ou 4 anos já não tinham passaporte, nenhum documento português.
E Artur Silva, é preciso perceber algo que as pessoas, por vezes, não têm noção. É que hoje viver na Argentina, eu sei disso, tenho o meu filho neste momento a estudar, ainda melhor, mas eu conheço, fui lá como secretário de Estado. A questão de fundo é, na Argentina, as pessoas estão neste momento, devido à inflação, porque a Argentina é um país particularmente complicado nestas questões, a viver momentos de grande dificuldade. Mesmo que tivessem vontade, a larguíssima maioria dos portugueses que residem na Argentina não têm condições económicas para fazer uma viagem a Portugal. Esta é que é a realidade. E, portanto, nós temos que encarar as comunidades com as suas próprias especificidades, e aquilo que se aplica a Paris, que se aplica a Bordeaux, que se aplica a Berlim, ou que se aplica a Londres, pode não se aplicar noutras áreas do globo, onde as nossas comunidades vivem situações de dificuldades no plano social, no plano económico, ou até no plano da segurança, como é o caso, por exemplo, da própria África do Sul,
ou de portugueses
a ser vítimas de assassinatos perfeitamente inadmissíveis.
Cacá João Salves, resta-nos 3 minutos, mas isso vamos guardar para o mês de setembro. Um debate sobre isso e convidamos desde o Carlos Gonçalves da Vida aqui até aos estúdios. Na medida em que houve um encontro entre os dois primeiros-ministros, António Costa esteve aqui em Paris, encontrou-se com Elizabeth Borne, e no que diz respeito ao ensino, eu vou ler só uma pequenina frase, eu vou dizer em francês que é importante. En ce qui concerne l'enseignement, les deux premiers ministres s'accordent sur l'importance de l'apprentissage des langues étrangères et considérant le profil international et le potentiel qui est associé converge sur la nécessité de continuer à soutenir l'enseignement du français au Portugal et de, j'insiste là-dessus maintenant, dynamiser l'enseignement de la langue portugaise en France. Les Français peuvent dire, bon, c'est une déclaration de bonnes intentions.
Olha, é um pouco isso. Eu fui muito crítico em relação às decisões que foram tomadas pelo governo francês há um tempo atrás.
Há 2 anos atrás, com a reforma do BAC e do Liceu.
Eu fui à Assembleia Nacional Francesa porque o português deixou de ser a língua de especialidade. Depois temos sempre os entendidos, que só são entendidos para um lado, que entenderam que não era muito grave. O problema é que a língua portuguesa em França está associada a uma imagem de língua de imigrantes para imigrantes. Nós podemos falar da internação da língua, do peso da língua portuguesa, mas em França é esta a realidade com que nos encaramos. E a aposta da França não tem havido aposta, que apesar dos 2 acordos que foram assinados, a França só cumpriu naquilo que lhe interessava, eu estou a ser um pouco crítico, mas é a pura realidade relativamente aos elfos, mas não fez naquilo que é fundamental, o incremento no ensino secundário, a capacidade de haver continuidade para um aluno que passe do básico até
até finalizar os estudos secundários, isso não tem acontecido e hoje a situação é bem pior que aquela que nós conhecemos no passado, pronto, com algumas décadas, e isto não é aceitável. Não é aceitável porquê? Porque a língua portuguesa é aquilo que referiu, uma língua que falada, a terceira língua europeia mais falada no mundo, no hemisfério sul, tem um papel preponderante, uma presença preponderante, e além disso, vive em França uma comunidade estimada a 1.300.000 pessoas de origem portuguesa, muitos deles binacionais e muitos deles cujo agregado familiar no fundo são casais mistos, um é francês ou de outra nacionalidade e o outro é português, onde a língua portuguesa não se fala. E como tal, a procura é cada vez maior, não digo como primeira língua, mas como segunda, terceira língua, e sinceramente não há resposta e não há oferta de língua portuguesa. E aqui o governo português, o português francês, não tem estado à altura daquilo que a língua portuguesa merece e esta comunidade franco-portuguesa merece. E aquilo que eu apelo à nossa comunidade há muito tempo, aos seus políticos, aos seus autarcas, a todos aqueles que intervêm na esfera pública em França, que não deixem de apelar e de solicitar e de reivindicar, e muito mais nas escolas, nos liceus, nos colégios, na altura da constituição das associações de parents d'élèves, permitam-me a expressão francesa, que estejam presentes, como nós sabemos, que vale a pena esconder, a associação de parents d'élèves estão muito politizadas em França, e é preciso que os portugueses, ou aqueles que entendem que o português é importante, estejam presentes e defendam, como é evidente, o ensino da língua portuguesa. Do lado português, tem havido aqui, não digo uma clara subserviência, mas tem havido pouco cuidado em tentar, como é evidente, negociar isto, ou pelo menos que a França cumpra aquilo que eventualmente se propôs quando assinou os acordos com Portugal.
Em 2017, Carlos Gonçalves, estamos a terminar, se quiser favor.
Só para dizer, neste caso, o Primeiro-Ministro, na reunião, na Cimeira Franco-Portuguesa, escolheram o ensino da língua portuguesa para debate, parece-me sempre importante, porque é este nível que realmente que as questões têm que ser resolvidas no plano político, vindo de cima para baixo, porque senão temos grandes dificuldades.
Bom, entretanto, ao que parece, os ministros de educação dos dois países receberam ordens de se reunirem e tentarem avançar com aquilo que foi dito pelos respectivos chefes de governo. Enfim, Carlos Gonçalves, muito obrigado.
Que agradeço a oportunidade.
E damos encontro no mês de setembro, precisamente, para ver para já como é que decorre o ensino da língua portuguesa aqui, isto tanto do lado das autoridades portuguesas como do lado francês, tanto mais que a situação é gravíssima agora a nível do ensino superior e com todos os departamentos onde a língua portuguesa está presente, mas enfim, isso falaremos depois em setembro. Muito obrigado, Carlos Gonçalves.
Muito obrigado e boas férias aos ouvintes da Rádio Alto.
Muito obrigado. Nós estamos a nos aproximar tranquilamente das 13 horas, lembro, emissão com redifusão da noite da quarta para quinta-feira e sem esquecer, a partir das 0 horas agora, sem esquecer o podcast. Então.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Voltamos ao direto aqui, segunda hora de Passagem Nível, neste domingo, dia 2 de julho. Datas, entre o 8 e 13 de agosto, vai ser a 10ª edição do Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes em Braga. Luciana Gouveia, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Alfa.
Olá, boa tarde a todos.
Muito obrigado, delegada-geral da Capa Magellan, era o 10º encontro. Bom, não vou pedir agora para fazer um balanço daquilo que se passou, porque, bom, aparentemente é algo que tem êxito. Antes de falar dos participantes e dos requisitos, igualmente, para poder ser selecionado, comecemos pela temática. A temática este ano, qual é destes encontros?
Sim, a temática do encontro europeu este ano ronda à volta do tema da empregabilidade e do digital e do desenvolvimento sustentável, portanto, da ecologia. O objetivo é de facto reunir os jovens e que durante uma semana eles trabalhem sobre estas três temáticas, que de resto são também as temáticas habituais do encontro. A ideia é haver uma continuidade entre os trabalhos desenvolvidos durante os encontros todos os anos e, portanto, continuar a trabalhar as mesmas temáticas.
Ora, de manhã workshop e seminários, e como diz, há que trabalhar. Mas depois da tarde, visitas culturais em Braga, mas igualmente na região. Eu falei de requisitos, bom, vocês chamam isto de critérios de seleção. Há três, talvez em resumo, explicar exatamente quais são.
Sim, é um encontro de jovens ou de animadores de juventude, portanto também aceitamos menos jovens, eu costumo dizer à medida que eu vou envelhecendo, portanto a noção de juventude também vai envelhecendo, mas sim, portanto, a partir dos 18 até por aí 35, mais ou menos, falar português, o encontro também tem esta mais-valia de valorizar a língua portuguesa, portanto é exigido um nível B2 de língua portuguesa e depois ser lusodescendente ou lusófono de um dos países parceiros do encontro. Basicamente são esses os critérios. Temos tido muitas candidaturas, está a funcionar muito bem, de facto, este ano, até de países em que por vezes costuma ser menos evidente, a Alemanha, até a Áustria, que não é um dos países parceiros no âmbito da candidatura Erasmus+, portanto estamos super entusiasmados e a aguardar, de facto, pelo encontro com grande ânimo.
Ora, há que referir que alojamento, alimentação são gratuitos e as viagens reembolsadas. Ora, mas tudo isto supõe, evidentemente, despesas que a Cap-Magellan tem que assumir, mas daí a necessidade das parcerias que a Cap-Magellan tem para levar a cabo.
O encontro é feito no âmbito de uma candidatura que fizemos ao Programa de Financiamento de Mobilidade Europeu, Erasmus+, portanto, a parte europeia assegura o reembolso das viagens internacionais de alguns países, os países nos quais temos efetivamente parcerias com associações locais, portanto, aí depois há plafons a respeitar, essa informação está toda no site. A parte do alojamento, alimentação, essa fica a cargo dos parceiros locais, portanto, este ano é a Câmara Municipal de Braga, que acolhe o encontro europeu, que de facto permite que essas despesas sejam incluídas e, portanto, sem custos para os participantes.
Ora, vocês vão levar a cabo, acho que uma parceria com a Associação Mãos à Obra Portugal, explicar que associação, porque eles têm um objetivo bem definido.
Sim, isso tem a ver precisamente com as temáticas deste ano, ligada à temática da ecologia. Existe, de facto, uma parceria que estamos a desenvolver, que pode ser com essa associação ou com qualquer outra estrutura da zona, e tem a ver com uma tarde dedicada a uma atividade cidadã. Aqui o objetivo também é anular um bocadinho a pegada carbónica de todas as viagens dos participantes, portanto, há mesmo um compromisso para com a temática da ecologia e de termos um encontro verde durante o mês de agosto. Depois há outras parcerias locais, a Startup Braga, com a qual também os participantes vão desenvolver ao longo da semana um projeto de criação de uma startup. Aqui estamos novamente na temática do digital e empreendedor para a comunidade. O objetivo do encontro é, no final da semana, haver coisas concretas que os participantes tenham desenvolvido ao longo da semana e que sejam propostas depois localmente, quer a associações como Mãos à Obra ou outras, quer a Startup Braga, quer a Câmara Municipal de Braga. Isto também já tem sido uma tendência nos últimos encontros e o objetivo é, de facto, continuar com esta prática.
Ora, vocês também falam de inclusão, hoje é um termo que está na moda, mas infelizmente não basta estar na moda, tem que corresponder uma realidade. Estou a pensar, evidentemente, pessoas em situação de deficiência, mas igualmente aqueles que têm mobilidade reduzida. Vocês avançam mesmo a ideia de que essas pessoas possam ter acompanhantes?
Sim, isso é um dos pontos também fortes deste ano. Já temos aqui nos encontros passados pessoas com mobilidade reduzida, lembro-me nas Caldas da Rainha tínhamos uma rapariga, o ano passado também tínhamos um rapaz com necessidades especiais, quando o encontro foi em Fátima, e portanto sim, não é questão de estar na moda, é questão de igualdade de oportunidades e de conseguir acolher nas mesmas condições pessoas que possam ter necessidades especiais. Portanto, isso também está tudo acordado do nosso lado. Já temos candidatos também, quer com mobilidade reduzida, quer com necessidades especiais a outros níveis. E, portanto, naturalmente tudo será feito para que eles possam desfrutar do encontro como de qualquer participante, e sim, se precisarem por algum motivo de ter um acompanhante, será também naturalmente bem-vindo.
Isso é importantíssimo. Isso. Eu não sei como é que eles vão fazer aqui em Paris com os Jogos Olímpicos em 2024, sabendo que as esmagadoras maiorias do metro só têm escadas e não têm elevadores. Bom, me deixem de
dizer. O metro, parques subterrâneos, é absolutamente insuportável e, de facto, eu também estou a aguardar para ver.
Sim, nós é para ver, mas infelizmente outros nem podem lá chegar. Ora, vocês também têm o cérebro de organizações parceiras a níveis do Erasmus. Ora, encontrei em França a ASEPEF, Associação des étudiants peruviens en France. Ora, talvez mereça uma explicação.
É engraçado porque eles já são parceiros há alguns anos, não é toda a primeira vez, e alguns dos membros da associação falam português, português Brasil, mas português, e têm participado, e este ano, inclusive, é também uma novidade a esse nível, que é eles exportarem o modelo do nosso encontro para a comunidade que fala espanhol, portanto, é uma espécie de réplica de nós. Trabalhamos a temática da valorização da língua portuguesa e, portanto, eles conseguirem exportar, organizando ou em França ou no Peru, portanto, isso é com eles, mas uma espécie de réplica do modelo para falantes de espanhol. Portanto, sim, continuamos a acolher essa associação parceira. De resto, em França nem seria obrigatório, no âmbito da candidatura Erasmus Mais, termos um parceiro, porque a mais já tem sede em França, mas tendo essa parceria, de facto, engraçada e interessante, sobretudo.
Ora, a que refiro, a Capa Majerón tem o Departamento do Emprego. Há uma relação, vocês também fazem uma ligação com esse trabalho que realizam aqui em França e estes encontros, mesmo sempre, com o Instituto do Emprego, o Português, isso tudo. Como é que as coisas se harmonizam?
Sim, para já, a responsável do Departamento de Estados do Emprego vai estar também no encontro. E há uma ligação direta, pois nos próprios convites dos oficiais, o secretário de Estado do Trabalho será naturalmente convidado, o IFP é parceiro da Cap Magellan também, e nas temáticas desenvolvidas também fazemos uma ligação com os programas que possam existir em Portugal e no IFP associados a essas temáticas. Há uma ligação direta, sim.
Ora, no final do encontro vamos ter direito a uma espécie de, não digo certificado de competência, mas enfim, porque vocês dizem que isto pode ser importante, este encontro e a participação.
Desses... É importante para os jovens, de facto, tem a ver com o programa europeu Erasmus Mais. No final do encontro há o que chamamos o Youth Pass, portanto é um certificado que não certifica a questão da participação no encontro, mas que certifica mesmo as competências adquiridas durante o encontro. Portanto, há aí um enquadramento muito, muito rigoroso da parte da agência Erasmus francesa sobre as temáticas dos workshops, sobre, efetivamente, os trabalhos dos participantes ao longo do encontro e sobre as competências que vão adquirir e depois vai ser certificado com esse certificado. É um certificado, mas um certificado de competências e não de participação, não de participação.
É bastante importante quando se está já a preparar o CV. Ora, inscrições online, desta agora é tudo online, felizmente que já lá vai a Covid e que acaba, mas eram, e nós todos podemos recomeçar a viver.
Inscrições online até esta semana.
Até o dia 7, não é?
Estão a decorrer, exatamente. Há cotas por país, portanto, se estiverem interessados, não hesitem. Alguns países já temos, de facto, muitas candidaturas. Depois vai haver uma seleção, as associações parceiras também participam nessa seleção, mas ainda está a decorrer, portanto, força, não hesitei.
Ora, entretanto, aqui nos estúdios onde eu estou, aqui na Rádio Alfa, no próximo sábado, dia 8 de julho, aí vão ser lançados os 20 anos da campanha Sécurité desta feita 2023, é isto no quadro do programa Tempestade, é importante.
Sim, uma campanha já histórica para a associação, campanha muito, muito importante, porque necessária, não é? A questão da transumância de carro continua a ser uma realidade de muitos de nós. E, portanto, sim, um ano especial. 2003 foi a primeira campanha, portanto, 2023, 20 anos depois, com aí os amigos da Tempestade 2.1, vamos fazer o lançamento em direto nas ondas da Rádio Alfa, no sábado que vem. E depois a primeira ação, já é habitual, na discoteca Vila Moura.
Nesse próprio dia, não é?
No próprio sábado, na noite de sábado para domingo.
Enfim, bom, os colegas da Tempestade vão desenvolver isso tudo. Uma última referência, a Luciana Gouveia, relembro, delegada-geral da Associação Cap Magellan. Vocês têm uma nova presidente, que é a Lourdes Abreu.
Que era vice-presidente, portanto, já estava no Conselho de Administração já há algum tempo e, sobretudo, voluntária na Associação há muitos anos. Sim, Ana Martins passou a pasta, passou 10 anos e temos agora Lourdes Abreu a assumir a presidência.
Então, agora, para falar em francês, é um pur produit de Cap Magellan? No bom sentido do termo, no bom sentido.
Cap Magellan, ela chegou a Cap Magellan há vários anos, efetivamente, enquanto voluntária, e foi desenvolvendo, e foi se engajando, como é que diz? Implicando nas atividades. Já estava, de facto, no Conselho de Administração, tinha, aliás, essa pasta da vice-presidência, e, portanto, seguimento natural com a Ana a passar a pasta e a Lourdes a assumir o cargo de presidente.
Sim, que já...
Uma mulher, novamente, portanto, boa notícia também.
Importantíssimo, pois.
Exatamente, não
faltou requisito,
obviamente.
Aliás, o passaporte da Lourdes Abreu foi ser Miss Magellan. Em 2018.
Quando ela chegou à Cap Magellan a primeira vez, o e-mail dela já era Miss Magellan. E eu até achei, bom, isto é um bocado de graça, não fiquei, não, já era mesmo, lembro perfeitamente, mas sim, completamente espírito Cap Magellan, super apaixonada por Portugal, cultura portuguesa e tudo isto. Temos que programar aí uma intervenção, uma participação da Lourdes ao programa.
O convite está feito para veremos isso no mês de setembro. Muito obrigado e para os nossos ouvintes.
Obrigada a nós e até breve.
Hoje eu chamava a atenção precisamente para o próximo sábado, dia 8, a partir das 14 horas aqui com o pessoal da Tempestade 2.1, com mais detalhes, porque para aqueles pessoas que partem para Portugal de carro vão ter a oportunidade de cruzar o pessoal da Cap Magellan. Muito obrigado mais uma vez, obrigada, Luciana. Paulo. Muito obrigado. E nós, dentro de alguns instantes, vamos falar de música, mas não só. Vamos falar da pintura, vamos falar de certo número de objetos que, para que cheguem à França, foi lançada uma campanha de financiamento participativo. Falaremos com o Jorge Miné dentro de um minutinho ou dois. Até já. E voltamos aqui ao direto, há instantes falámos desse encontro de jovens luzes ascendentes em Braga, agora vamos mais pertinho nós, vamos até ao departamento 78, Bugival, para falar precisamente de uma campanha de financiamento participativo. Hoje de manhã, pelo que eu ouvi, através das redes sociais, valem o que elas valem, 6.598 euros, o objetivo é de 15 mil euros. Jorge Miné, estou certo ou estou errado?
Está certíssimo, está certíssimo. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Estamos na reta final, final para obter exatamente esses 15 mil euros que nos permitem trazer de novo à Vila Viardot uma coleção excepcional da família Garcia. Portanto, esse grande personagem que foi o Manuel Garcia e depois a ínclita geração da Maria Malibran, da Pauline Viardot, do Manuel Garcia Filho, que foram, na verdade, eixos fundamentais na história da música europeia, mas também na história da música internacional, já que, graças a ele, se fez pela primeira vez em Nova York o Dom João de Mozart e o Barbeiro de Sevilha de Rossini. Portanto, pode imaginar a importância desta família de origem espanhola, que esteve em Paris, que depois a Pauline viveu também em Londres e em Baden-Baden, portanto uma família profundamente europeia, e que esta coleção hoje vem, na verdade, dar ainda mais lustro a esta inauguração da Vila Viardot de 16 de setembro, porque infelizmente esta coleção encontra-se no Canadá. Portanto, temos que a trazer do Canadá para cá. Foi, na verdade, algo muito comovente que os herdeiros da família Garcia quisessem oferecer ao Centro Europeu de Música esta coleção única e excepcional, mas é evidente que nós temos que assumir agora as companhias de seguros, os passaportes das obras e esta viagem entre o Canadá e Bougival, para que esta coleção possa ser vista não só pelos habitantes de Bougival, mas também pelos franceses e pelos europeus, dada a grande importância desta coleção.
Ora, mas Jorge Miné, bom, não há só quadros, há um certo número de objetos, um certo número de documentos. Finalmente é voltar a dar vida a essa casa que já está reabilitada. Já iremos tanto alguns anos, porque ela estava em ruínas e corria mesmo o risco de se desmoronar completamente. Porque, precisamente, a coleção não são só pinturas, é muito mais do que isso.
Não, são partituras, são programas, são cartas, são desenhos da Pauline Viardot, que não só foi uma grande música, mas também uma ótima desenhadora. E nos desenhos que temos algo que nunca foi visto pelo público, que são desenhos da Pauline, do Frédéric Chopin e da George Sand. Portanto, desenhos únicos que serão mostrados, evidentemente, na Vila Viardot, que, como sabe, foi um dos grandes combates destes últimos anos para salvar essa casa, não só que é uma casa belíssima e que merecia ser salvada só por isso, mas sobretudo pelo que se passou nessa casa, da consciência cultural europeia, que de repente era a única resposta diante dos nacionalismos e dos imperialismos que estavam a desbrotar nos quatro cantos da Europa. E acho que hoje esta mensagem de uma Europa diversa, mas unida, é absolutamente fundamental.
Ora, bom, Centro European Music, presidente fundador Jorge Chaminé, podemos voltar 23 anos atrás, porque foi nessa altura, penso eu, que o Jorge Chaminé descobriu precisamente a Vila Viardot, e com tudo o que isso implica, tudo o que ela representava. Mas em 2000, voltando 23 anos atrás, olhou para aquilo e receou pior, não?
Exatamente, e no fundo houve uma espécie de sentimento colérico que montou nas minhas veias ibéricas e que de repente achei que era quase vergonhoso que as autoridades francesas tivessem deixado essa casa, com tanta importância na história da música e na história da arte em geral, estivesse nas condições em que estava. E, portanto, a minha vontade foi imediatamente de inscrever a música nos célebres salões da Pauline Viardot, criar o Festival de Bougival, e a partir daí houve, portanto, este desenrolar de reflexões e de ações, sobretudo, para realizar o Centro Europeu de Música, que hoje, como sabe, está a ser alastrado a uma verdadeira constelação europeia, onde Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Alemanha, Áustria e Suécia hoje já são candidatos a ter antenas do Centro Europeu de Música nos respectivos países. Portanto, isso é na verdade, o resultado de um trabalho de longa lena, não é? Um trabalho de muita energia, de muita convicção, de muita persuasão em relação a atores políticos e económicos, para os quais, infelizmente, muitas vezes a cultura é o parente pobre. Portanto, isto tem sido o combate de uma vida, mas acho que estamos a realizá-lo.
Exatamente. E a propósito de políticos, e não só, estou recordado ainda da visita do casal Macron, precisamente às obras desta Vila Viardot, mas houve, digamos, uma ajuda substancial, foi o chamado Loto do Património e a missão Stéphane Bern, porque aí houve um envelope de 500 mil euros, parece que
foi o pontapé de saída. Foi o pontapé de saída, se quiser, para essa possibilidade de restaurar a Vila Viardot. É evidente que depois houve aportes de outras, do município de Bougival, do departamento da região, que vieram contribuir também para o restauro. Porque o que é absolutamente incrível é que o arquiteto Mester de Parade, que é o arquiteto do Bâtiment de France, que hoje conduziu de forma absolutamente esplêndida o restauro da Vila Viardot, ele disse-me: Jorge, se tu não tivesses passado por aqui, esta casa estava já em ruínas. Portanto, o estado da casa e o estado de trabalho do restauro que teve que ser feito foi muito maior do que estava previsto, já que as fundações da casa estavam completamente corroídas pela água. Portanto, era questão de meses e a casa seria ruínas, não é? Portanto, acho que isso é um grande orgulho da nossa parte do Centro Europeu de Música, de ter posto os holofotes em cima da situação desta casa, e que esta casa depois, com o apoio da Mission Berne, do Loto do Patrimoine e, nomeadamente, do casal presidencial, do Presidente da República e da sua esposa, que vieram exatamente oferecer esse cheque de 500 mil euros, que foi o início da nossa... da ressurreição desta casa, que é a Vila Viardo, em Bujibá.
João Chaminé, temos uma data já, 16 de setembro, portanto, a inauguração da Vila Viardo e, sobretudo, a exposição. Ora, precisamente, esta campanha de financiamento participativo, é de propósito que utilizo esta expressão e não o termo em inglês. Peço desculpa, mas, enfim, é de propósito.
Tem toda a razão.
Qual é exatamente a plataforma para onde se pode...
A plataforma chama-se Ulule, e na verdade todos os ouvintes que queiram contribuir, nem que seja com 1 euro, com 2 euros, é extremamente importante, porque é uma coleção única que nós temos hoje, esta grande dádiva em relação aos herdeiros da família Garcia, e que hoje poderá, na verdade, regressar à Europa, regressar a Bujibal, e regressar, sobretudo, à Vila Viardot, vila tão querida pela grande Pauline Viardot, que eu gosto muito de chamar a Mãe Europa.
Bom, é um regresso a casa.
É um regresso a casa, e nomeadamente eu sei que há muitos portugueses que vivem em Bujibal, portanto é um regresso à casa deles.
Completamente. A propósito de perderem exatamente o nome da plataforma, através das redes sociais, fazem Sound Europe and Music e têm acesso a tudo. Uma última questão anexa, Jorge Chaminé, bom, vai haver inauguração da Vila Viardé, mas... Mais atrás, haviam 7 projetos, mas daqui para a frente há todo um projeto pedagógico de ateliês, isso tudo pensando nos músicos mais jovens, mas nos outros também ditos da terceira idade, detesto esse palavrão, mas enfim, mas esse projeto aos poucos e poucos agora, com a inauguração da Vila Viardo...
Sobretudo o que é importante é que, na verdade, as nossas atividades vão poder, enfim, começar... na Vila Viardo, portanto, a partir de janeiro de 2024, haverá toda uma temporada de ateliês, de masterclass, de concertos, de eventos, de exposições e, ao mesmo tempo, de conferências, que será extremamente interessante para evidentemente, as pessoas que vivem em Bujibal, mas também para o departamento, para a região, para os franceses e para os europeus, que já estão excitadíssimos para vir assistir à inauguração. É evidente, porque nós construímos esta rede de casas e museus de músicos europeus, que hoje são 58 de 23 países diferentes, portanto, na iniciativa do Centro Europeu de Música, e, portanto, a Vila Viardo passará a ser o coração palpitante das nossas atividades, e depois que se desenvolverão com todo o projeto do Centro Europeu de Música em todas as suas missões, que são múltiplas, como sabe.
Agora, o que eu já estou a pensar no dia 16 de setembro, Jorge Chaminé, é que a partir da estação da linha L do comboio, é de Bujibal, linha L parte da Gare Saint-Lazare, precisamente por flechas para indicar onde é que está precisamente...
É evidente, há todo um trabalho de indicação geográfica, e sobretudo há um trabalho também de mobilidade a nível de transportes, que hoje está a ser estudado, exatamente por causa ou devido ao facto de que o Centro Europeu de Música estará em Bujibal, portanto, com toda uma série de possibilidades muito mais abertas de transportes públicos para essa zona da região Ile-de-France.
É que é bastante bonita, ainda por cima. Bom, mas isso é o que faz...
Ainda por cima é de uma grande...
É agradável, como tudo. Jorge Chaminé, obrigadíssimo.
Obrigado eu.
Um excelente verão, e cá esperamos a todos.
Obrigadíssimo. Muito obrigado, Artur, e peço aos ouvintes, na verdade, que possam contribuir que lhe estarei eternamente reconhecido.
Obrigado pelo seu trabalho, Jorge. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço.
Partie de moi veut garder cette maison, mais je sais que c'est pas raisonnable. La belle maison qu'aujourd'hui tu veux vendre, j'en connais pas l'histoire. L'histoire du Portugal ou l'histoire de notre famille?
Bah, les deux finalement.
Ton grand-père était musicien, ta grand-mère chantait.
Dona Hilda Vianna.
Tu avais tous les membres qui avaient.
Et venait de famille pauvre. Il n'y avait qu'une perspective, fuir la misère.
Je connais des gars qui s'organisent pour partir.
Chut, là, tu crois que tu vas les réaliser comme une grève? En partant, en me laissant.
Ce soir, à la mémoire de tes grands-parents, grands artistes. J'ai tellement la saudade de papa et maman.
Moi aussi.
C'est quoi la saudade, Auguste?
La saudade?
Jamais je ne pourrai t'oublier.
C'est vrai, c'est quoi, Saudade Dunninger? Bonjour et merci d'être en direct. Je sais que vous êtes pressé, que t'es pressé pour prendre la route vers Avignon. On y arrive. Voilà, Saudade ici et là-bas. Donc, Isabelle Ribeil, Dunninger Duchamp, Simon Guélen, mise en scène d'Alexis Dessau. Bon, après la région parisienne, après le Nord également, ça y est, vous êtes dans le OFF, Festival OFF Avignon, du 7 au 29 juillet. Alors, vous allez faire quoi? Mêler les chansons lusophones au chant des cigales?
Bah, ça serait pas mal, non? c'est pas incompatible en tout cas. En tout cas, la pression est montée d'un cran puisque on y est, hein, d'ici même pas une semaine. Mmh. Et puis bah c'est une consécration. Et puis bah c'est aussi grâce à nos sponsors. On n'aura jamais, on les remerciera jamais suffisamment. Et donc de pouvoir raconter un peu l'histoire de nos parents. Et qui peut être écho à tant d'autres civilisations.
Alors, en résumé, je demande que ce soit toi à le faire, parce que, bon, apparemment, la bonne excuse, entre guillemets, c'est la vente d'une maison, mais c'est pas évident. Finalement, on part pour vendre une maison, mais on n'a pas trop envie après.
Bah, le grand frère que je suis dans la première partie de la pièce a pas envie, mais comme il est marié avec une Française qui a des parents à aller voir ailleurs, enfin bon bref, c'est une histoire qui peut ressembler à tellement d'autres que lui il a pas envie de la vendre, mais en même temps il faut pouvoir s'en occuper de la maison, hein, parce que comme n'importe quelle maison, il y a le toit ou je sais pas trop quoi, enfin il y a tellement de choses à payer et tout ça, et donc la petite sœur veut absolument la vendre. En fait, cette maison qui est devenue secondaire devient en fait le point de chute de toute une histoire. Et c'est là où on va parler de la transmission et de ce mot de saudade. En fait, qu'est-ce qu'on garde du passé? Qu'est-ce qu'on doit transmettre aux jeunes générations? Jeune génération qui est donc représentée par Simon Guélen qui joue le neveu de mon personnage dans la première partie du spectacle. Et qui a un autre rôle évidemment sur le second, mais je laisse les gens découvrir après, parce que après Avignon, nous avons déjà des dates ici en région parisienne, Ormesson notamment, à Brunois, et on est déjà en pour parler avec d'autres villes, et donc je voudrais pas en dire de trop, mais en tout cas cette première partie, explique en fait une histoire bien universelle qui pourrait rappeler encore une fois, les gens qui quittent leur province pour monter sur Paris ou qui quittent leur province pour changer carrément de pays, quoi. Voilà.
Bon alors, je vais pas rien divulguer non plus, mais ça n'empêche qu'au milieu de tout ça, c'est que je crois, hein, j'ai peut-être tort, mais finalement c'est que à partir de la pièce, on est obligé de se regarder nous-mêmes un petit peu, savoir quel sentiment on a, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on est. Est-ce que finalement tout ça, ça paraît pas en filigrane? Mais bon, je suis en train de rien expliquer exactement, faut voir la pièce, mais il y a pas tout ça, il y a toutes ces questions-là qui sont soulevées par votre travail.
Ben je pense que oui, parce qu'en fait les retours et certains ont d'ailleurs été enregistrés à la sortie de nos deux premières représentations à Paris quand on l'a présenté au Théâtre Clavel dans le 19e, au mois de septembre dernier. Apparemment, oui, ça avait réveillé plein de choses au public qui était là, aussi bien d'origine, je vois des références réelles d'origine portugaise ou même italienne, où justement ils allaient passer peut-être un petit peu plus de temps avec les parents pour savoir exactement quel a été leur parcours, pourquoi ils ont quitté leur pays, quelle a été leur difficulté quand ils sont arrivés ici. Certains ont été un peu dénigrés, d'autres peut-être un peu moins. La France a toujours été aussi un pays d'accueil, donc tout ça est livré. Puis chacun fait un peu son propre parcours et fait sa propre analyse. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qui a l'air de retourner, et tant mieux.
C'est ça qui ressort. Bon, et d'ailleurs, tout ce que tu viens de dire, ça me fait rappeler à la BD écrite par Olivier Fonce, Les Portugais, parce que justement, il l'a découvert. Alors, il y a un certain nombre de critiques, par exemple, RTP International, je cite, bon, c'est en français, « la transmission d'une histoire portugaise méconnue ». Alors, moi, je pose la question, méconnue par qui ? Par les Portugais, là-bas, non ? Pas par nous. Nous, on la connaît bien, non ?
Franchement, je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours entendu parler de cette histoire. Mmh. Mais c'est vrai que la première génération, bien souvent, en tout cas pour les Portugais, bien souvent, on tait ce passage ou ça, le fait de vivre dans des baraques et tout. Alors, est-ce que c'était par pudeur ? Est-ce que c'était par honte ? Je sais pas. Après, chaque individu a sa propre histoire, et donc on peut pas dire que c'était ça ou autre chose. Mais en tout cas, oui, et les Portugais là-bas, certainement parce que certains Portugais d'ici cherchaient à cacher, ils n'avaient pas forcément, ils ont fait des grands efforts pour pouvoir s'en sortir, et certains ont réussi à mettre une vraie vie en marche. Mais je pense qu'il y a une espèce de honte qui a quand même été par rapport aux Portugais de là-bas, et puis les Portugais de là-bas qui ont un peu dénigré ceux qui étaient ici. Mais à qui la faute, si toutefois il y a une faute à donner, c'est malheureusement, mais en tout cas de pouvoir en parler ouvertement, et puis de savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où aller, quoi.
Bon, la faute à qui ? Bon, il y avait la misère, il y avait le fascisme, il y avait tout ça, hein, c'est ça qui nous a poussé à partir, et pas parce qu'on est aventurier. Mais alors, il y a, bon, Isabelle Ribeiro, de Nigelschens, très bien, jusque là je comprends. Simon Guillen,
Simon, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre avec Alexis, parce que, comme on l'a déjà dit, Alexis, le metteur en scène, exactement, de la pièce, et aussi le mari d'Isabelle, si on peut le dire. Et accessoirement. Non, mais c'est important parce que c'est aussi lui qui a dit à Isabelle, il faut que tu racontes, parce qu'au départ Isabelle voulait faire un documentaire, et puis comme lui il était dans le théâtre, il l'a poussé un petit peu justement à écrire une histoire dans ce sens-là. Alexis avait un rôle assez récurrent dans la série Julie Lescaut avec Véronique Genest. Et Simon était grand fan de cette série, et en fait ils ont fini par se rencontrer, et Alexis s'était dit un jour on fera quelque chose ensemble, et comme Isabelle cherchait des musiciens sur Paris, sur Paris, comme moi je la connaissais parce que je l'avais déjà invitée sur un concert pour venir chanter avec moi, là évidemment Simon est de Belgique, mais du coup ils lui ont demandé de venir prendre sa place dans cette pièce. Et alors ce qui est bizarre, c'est que en fait il y a un moment donné on pensait justement avoir des jokers si jamais quelqu'un était souffrant, ne pouvant pas faire la pièce, et on s'est aperçu que ça allait être complètement difficile, parce que Simon a pris une telle place dans, aussi bien au point de vue sonore, l'accordéon qui apporte vraiment un côté très nostalgique à certaines scènes et très 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 percussif dans des chansons un petit peu plus capverdiennes avec un son un peu plus dansant entre guillemets. Que ça, si un jour on a besoin de prendre un joker, pour moi je sais pas, pour Isabelle je sais pas, mais en tout cas pour Simon en tout cas ça va être compliqué parce que justement il apporte cette jeunesse et même s'il est pas d'origine portugaise, il a pris, mais alors vraiment toute sa place dans cette pièce. Et moi, je suis vraiment très heureux de l'avoir rencontré, non seulement artistiquement, mais humainement en plus. Et vraiment, on s'entend super bien. Et je suis vraiment ravi de pouvoir faire cette aventure, hein, parce que c'est vraiment une aventure. Ça fait mal, hein, ça réveille plein de choses. C'est une pièce qui y a des moments assez drôles quand même. C'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure.
Alors, une aventure déjà avec quelqu'un qui l'a écrite, c'est Isabelle Ribeiro, mais vous n'êtes pas tout seul, les enfants. Et pour aller sur scène, bon, qui s'est occupé de la lumière, du son, du décor? Il faut les citer aussi.
Alors, il y a de toute façon, c'est une création depuis le départ, hein, parce que bon, c'est vrai que Isabelle a écrit le texte, mais Simon a apporté justement sa façon d'être. Moi, j'ai apporté plein de choses. Tu sais que j'ai écrit une chanson pour les soldats portugais. Ça me tenait à cœur qu'on en parle un petit peu, même brièvement, mais qu'on en parle un petit peu. Et donc la lumière a été créée. En fait, c'est père et fils. Il y a Cédric Cédric Le Seine qui s'occupe de tout ce qui est projection, parce qu'il y a des photos de Gérard Blancourt, et puis des images d'époque aussi, sans le son, avec justement cette partie où Simon met de l'accordéon, et ça c'est à terre pille. et puis son fils qui s'occupe de la création lumière. Je crois qu'ils vont nous rejoindre quelque peu à Avignon, mais à Avignon chaque théâtre
à ses propres régisseurs, techniciens, oui, voilà.
Voilà. Mais tu as raison de le dire, Arthur, ils sont dans la création de lumière. Et...
C'est un ensemble. Daniel, je te remercie, je sais que tu vas prendre la route, là. Donc, Avignon Festival Off du 7 au 29 juillet. Une petite question annexe, je te vole encore une minute avant ton départ. Alors, vous allez... Bon, d'accord. Vous allez distribuer des tracts. Vous allez gagner, vous allez tout faire finalement pendant 3 semaines pratiquement. Parce qu'il faut vendre le spectacle, hein. Et donc vous allez être dans les rues d'Avignon pour dire, bon, les enfants, venez voir notre spectacle, parce que c'est un
truc. Alors, ça va être, non, le spectacle va continuer parce que d'un commun accord, Simon et moi, on a décidé, ça a été proposé à la collégiale. Simon et moi, on va jouer et chanter, mais carrément dans les rues, pendant que Isabelle et une équipe qui viendra nous donner un coup de main pour la distribution du track, les tracks, se fera autour de nous. Donc du coup, il y a de grandes chances que si vous allez à Avignon, vous entendiez quelques morceaux portugais, peut-être même des morceaux à moi dans la rue, histoire de d'attirer les gens vers nous et de leur donner envie d'écouter les cigales sous un soleil du Portugal. Par le biais de notre pièce, voilà.
Voilà, avec une sonorité de fado quelque part. Dan, je vais encore te voler 1 minute 30. Dans la mesure où le directeur du Festival d'Avignon, c'est Thiago Rodrigues, mais le Festival In, s'il vous plaît, bon, n'est-ce pas? Je pense que votre compagnie, ce serait bien qu'il sache qu'il y a un spectacle à Avignon. C'est en off, dans l'off d'Avignon, mais ce serait bien. Parce que cette année, il a décidé, bon, de rien passer de portugais, entre guillemets, pour pas être accusé de ceci ou de cela. Je te demande d'écouter justement un petit extrait d'une interview de Thiago Rodrigues à Agência Luz. Il arrive.
O teatro português e de língua portuguesa, assim como a dança contemporânea portuguesa ou criada em países de língua portuguesa, terá certamente um espaço forte no Festival de Avignon nos próximos anos, não por causa do diretor deste festival ser português, mas pura e simplesmente porque tem uma enorme qualidade e diversidade para encontrar o seu espaço neste festival, como já tem sido, aliás, o hábito no ano passado, quando eu não era diretor, esteve cá o Marco da Silva Ferreira, em anos anteriores estiveram outros artistas portugueses, lembro-me de ver a Vera Mantero em Avignon, portanto, só no caso da dança, no caso do teatro, talvez eu seja a presença mais evidente nos últimos anos, mas não... certamente a única no futuro. Talvez neste primeiro ano o facto de eu ser português tenha influenciado pela negativa a presença da criação portuguesa ou de língua portuguesa por uma espécie de pudor muito português, mas que não será levado ao exagero porque não é o facto de ter nacionalidade portuguesa que deve prejudicar a criação portuguesa. É verdade que neste primeiro ano era importante para mim dar também um sinal de que não chegava, como por vezes infelizmente acontece, com uma bagagem de amigos e de cúmplices que iria agora ocupar este espaço de visibilidade tão importante para a criação artística e para o percurso dos artistas.
Tiago Rodrigues, entrevista da Agência Lusa. Dana, evidentemente, bom, o Tiago agora, durante algumas semanas, vai ser o teu vizinho, não é? Il sera ton voisin que tu voyais pas.
Oui, oui, mais je le comprends aisément. Et puis, au moins, ça permettra de faire taire certaines langues, parce que m'était déjà arrivé à l'oreille que si on avait été programmé à Avignon, c'était parce que justement Thiago était là. Et ce qui est complètement faux, puisque déjà lui, il s'occupe du in et non pas du off. J'ai quand même bon espoir de, j'en sais rien, on est toute une équipe, ouais. Donc de le voir, ce qui ne l'empêchera pas de, j'espère, de venir nous voir, quoi. Donc c'est tout ce que je souhaite, mais bon, voilà. On en reparlera à la rentrée, si tu veux, mon cher.
D'accord. Bon, Dan, bon voyage. Et je rappelle, vous allez bosser, là. Vous allez bosser. Et comment, justement, Avignon, ça va démarrer, que je dise pas de bêtises. Je cherche mes papiers. Bon, je suis perdu. Du 7 au 29. Mais heureusement que vous avez
17, ouais.
des jours, vous avez des jours un petit peu de, pour vous relâcher. C'est le cas de le dire. Relax.
Un petit peu le mardi, oui.
Merci, Dan. Et merci aussi à nos éditeurs. Merci à Manor Lechandre. Et pour terminer l'émission, bon, il manque quelques petites minutes. Rien de mieux que passer ta composition, Bataille de la Liste, d'accord?
Ah, c'est très gentil. Merci pour eux.
Un abraço, un grand abraço.
Un abraçant.
Bye bye.
Faire parvenir une carte enflammée de mots que je ne peux écrire car mon sort a censuré. Je revois nos nuits d'été à Lisbonne et Coimbra, entre amis attablés, ta douceur dans mes bras. Le président Machado voit ses enfants défiler sous cet arc héros aux côtés des alliés. Dans les Flandres étranchées, dans nos anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Anglaises tenues, bombardées et gazées, la relève n'est pas venue. Ne m'oublie pas, mon amour, surtout ne m'oublie pas. Notre départ de Cherbourg, hélas, se fera sans moi. Au jardin de la Lys, je pourrais me reposer. Après l'ultime sacrifice, mon corps retrouvé.
Passagem de nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível.
aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.